Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Avec vous, nous sommes ce matin en Italie où Matteo Salvini se débat avec des soupçons de financement russe pour son parti d'extrême droite, la Lega.
Oui, et ce scandale, il n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé au mois de mai avec le FPE autrichien. Souvenez-vous, cette Ibiza Gate vidéo publiée par la presse d'un rendez-vous secret entre un dirigeant du parti autrichien et des émissaires russes enclins à financer ses prochaines campagnes électorales. La polémique, cette fois, est arrivée hier par une enquête du site américain BuzzFeed News, dont le correspondant en Europe, Alberto Nardelli, s'est procuré un enregistrement audio présenté comme explosif. On y entend Gianluca Savoini, un très proche collaborateur de Matteo Salvini, discuter avec trois Russes un matin d'octobre 2018 dans le lobby d'un palace moscovite, le Metropole Hotel. Savoini s'y livre à un argumentaire sur les qualités de son mentor et ministre de l'Intérieur italien. Il explique à ses interlocuteurs russes que Matteo Salvini, c'est le Trump européen, celui qui veut changer l'Europe pour la rapprocher enfin de la Russie. Un tournant pro-russe dont Savoini affirme être que Salvini est le meneur au sein d'une grande alliance entre partis amis, parmi lesquels il cite le FPE autrichien, l'AFD allemande, Madame Le Pen, comme il l'appelle en France, et Viktor Orban en Hongrie. Le but, entend-on encore dans l'extrait de l'enregistrement publié par BuzzFeed News, c'est de redonner leur souveraineté aux peuples européens qu'ils ne dépendent plus, je cite, des illuminés de Bruxelles ou de Washington, et donc qu'ils puissent se réconcilier avec la Russie. En entendant cette profession de foi enthousiaste, on a un peu l'impression d'assister à un entretien d'embauche, ou plus véritablement au discours d'un candidat à un prêt face à son banquier. Et justement, nous explique la Repubblica, qui met l'affaire en une, le but de ce démarchage auprès des Russes pour la Lega, c'est bien d'organiser un montage financier pour que l'argent russe arrive directement dans les caisses du parti d'extrême droite à quelques mois de la campagne pour les récentes élections européennes qui ont eu lieu au mois de mai. En l'occurrence, l'idée émise lors de ce rendez-vous d'octobre 2018, c'est que le gouvernement italien pousse la société pétrolière nationale Eni à acheter pour 1,3 milliard d'euros de carburant à une entreprise russe qui pratiquerait un prix d'amis et permettrait, via des intermédiaires, de dégager près de 60 millions d'euros de bénéfices immédiatement reversés sur les comptes de la Lega.
Alors il faut tout de même préciser, Camille Magnard, que personne ne sait si cet arrangement a été mené ou non à son terme.
Oui, c'est vrai. C'est justement l'un des axes de réfutation avancé par Matteo Salvini depuis hier. L'homme fort du gouvernement italien affirme à qui veut l'entendre qu'il n'a jamais reçu le moindre rouble ni le moindre litre de vodka de Russie. La formule est d'ailleurs reprise par le quotidien Kommerzant à Moscou, où le site du journal RBK indique, lui, que le fameux rendez-vous secret entre Savoini et ses mystérieux contact russe de haut rang avait déjà été évoqué par la presse italienne. C'était en février dernier dans le magazine L'Espresso. Et si l'investigation à l'époque n'avait pas encore mis la main sur l'enregistrement audio des échanges, elle affirmait déjà de sources sûres que les discussions du Metropole Hotel avaient porté sur une aide russe de 3 millions d'euros pour la Lega. Aujourd'hui, l'ampleur de ce présumé financement occulte est tout autre, hein, près de 60 millions, soit 20 fois plus que ce qu'évoquait L'Espresso en février. Et ça laisse à penser que plus que Salvini et sa Lega, c'est peut-être tout le mouvement derrière lui des partis d'extrême droite pro-russe d'Europe qui pourraient avoir bénéficié via l'Italie des largesses du Kremlin.
Alors, on continue maintenant avec le conflit qui se déroule en ce moment en Libye, où la question de l'implication de la France est plus que jamais posée, Camille Magnard.
Et oui, petit rappel, c'est le New York Times qui révélait hier à l'aube que des missiles américains appartenant à la France avaient été découverts dans une cache d'armes de l'armée rebelle aux ordres du maréchal Haftar, en lutte depuis le printemps avec les forces loyalistes du premier ministre libyen Fayez al-Sarraj. Depuis, rappelle le site Africa News, le Quai d'Orsay, très embarrassé par cette affaire, a indiqué que les missiles anti-chars en question avaient été déployés par l'armée française pour son propre usage dans le cadre de ses missions antiterroristes en Libye et que ces missiles étaient endommagés et donc impropres à être utilisés par les hommes d'Haftar. Mais Jeune Afrique n'en démord pas et affirme en une de son site qu'il n'est pas crédible que la France n'ait pas violé l'embargo sur les ventes d'armes aux belligérants libyens, car qu'on ne s'y trompe pas si elle est peu documentée sur le terrain. C'est bien une guerre que se livrent depuis le mois d'avril les deux armées pour la possession de la capitale Tripoli avec des armes venues de l'étranger. Et pour s'en convaincre, eh bien, il suffit de s'immerger dans le grand reportage multimédia que publiait il y a quelques jours The Washington Post avec le reporter Sudarsan Raghavan et le photojournaliste Lorenzo Tognoli. On est propulsé sous les balles sur la ligne du front libyen. « Reportage donc dans les quartiers détruits des faubourgs de Tripoli, dans les hôpitaux de fortune où sont amenés les victimes des snipers et des tirs de mortier de part et d'autre. Les deux journalistes décrivent un conflit qui n'a pas de limite, pas de règles, avec des ambulances par exemple régulièrement prises pour cible, des bombardements menés à l'aveugle sans se soucier des civils pris entre deux feux. Raghavan et Tugnoli décrivent des soldats qui n'ont rien connu d'autre que la guerre dans leur pays depuis presque une décennie. Ils disent aussi leur effarement face au niveau de polarisation qu'ils ont constaté chez ces combattants dont les plus jeunes semblent prêts à tout, à parcourir des centaines de kilomètres à travers le désert pour venir tuer d'autres Libyens. Une volonté d'en découdre jamais observée ailleurs, selon ces reporters de guerre qui ont pourtant couvert d'autres conflits au Moyen-Orient et qui observent aussi que les soldats du maréchal Haftar semblent étonnamment mieux équipés que les forces loyalistes à Al-Sarraj, eux qui peuvent compter, nous dit-on, sur le soutien discret mais efficace des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Russie et de la France.
Merci beaucoup Camille Magnard, revue de presse internationale à retrouver sur franceculture.fr.